Et le top départ de 100% rugby de ce mercredi 27 mars, et chaque mercredi, vous le savez, c'est le rugby amateur qui est à l'honneur. On va notamment se pencher aujourd'hui sur le club de Saint-Jean-de-Luz, la lanterne rouge de la Nationale 2, et qui a réalisé une belle perf le week-end dernier en s'imposant face au quatrième du tableau, Langon, et qui doit se déplacer chez le troisième, Niort, le week-end prochain. Nous serons justement avec le centre lusien Nicolas Sébès dans cette émission. Et puis en Fédéral 2, un derby à suivre ce week-end entre Asparin et Hendaye pour la 20e journée de championnat. Asparin qui reste sur deux victoires consécutives et qui est à quatrième du tableau. Sébastien Rouette, entraîneur d'Asparin, sera également avec nous dans quelques instants. Et puis j'aurai également des cadeaux à vous offrir, puisque j'ai pour vous aujourd'hui deux places encore pour le match de l'Aviron Bayonnais ce dimanche soir à Noëtta pour affronter le RCT.
100% rugby sur France Bleu Pays Basque.
On va éviter de confondre Racing 92 et Racing Club Toulonnais, bien sûr. En attendant, tiens, on accueille nos consultants du jour. Yann Blanchard, salut Yann.
Salut Julien, salut tout le monde.
Et Mickaël Guérindien avec nous aussi, salut Mickaël.
Bonsoir tout le monde, Mickaël.
Hola Mickaël.
Hola Mickaël.
Et comme tu as vu, j'ai mis la camiseta.
La camiseta.
Et il y a battle de chemise d'ailleurs entre les deux là. Il y a, on a plutôt bah, carreau, c'est côté de carreau, côté fleur.
Ouais, lui c'est Canada, que de mort, et moi c'est un peu plus design.
Bon messieurs, on commence en tout cas ce spécial rugby amateur par la Fédérale 2. L'entraîneur d'Asparin est avec nous. Bonjour Sébastien Rouette.
Bonsoir tout le monde.
Asparin qui reste donc sur deux victoires consécutives, je le disais, face à Navarinx et face à Orthez, les deux fois à domicile. Alors Orthez, hein, c'est la lanterne rouge du championnat, Navarinx c'est une équipe de milieu de tableau, 4 points seulement derrière vous, et 4 points, c'est d'ailleurs l'écart aussi du match de la semaine dernière, du week-end dernier, puisque vous avez gagné 35-31, 4 essais marqués de chaque côté. Vous avez tremblé un petit peu, non ?
Oui, oui, on a beaucoup tremblé, on était mené 32-13. À 20 minutes de la fin, et nous avons remporté ce match 35-32.
Donc 31-13 à 20 minutes de jeu. Qu'est-ce qui a fait que vous avez remis la marche en avant, que vous avez passé la seconde?
Le banc nous a beaucoup apporté. Le banc nous a beaucoup apporté, et les 20 dernières minutes, on a beaucoup joué. On a réussi à enchaîner, à garder le ballon. Saint-Paul a pris un carton rouge à un quart de la fin, et puis on a profité de cette supériorité pour gagner sur le fil. Voilà, dernière action, sur une pénalité poteau rentrant.
C'est le banc donc qui a fait le job à la fin.
C'est ça. Voilà, les sept remplaçants nous ont fait énormément de bien, et à l'inverse de chez eux, je trouve, notamment. Donc voilà. Donc on a su en profiter, et puis les joueurs n'ont absolument rien lâché à 20 minutes de la fin, on n'y croyait pas beaucoup. Ils n'ont rien lâché comme depuis le début de saison, et ils ont allé se chercher cette victoire qui est super importante.
Ouais, maintenant Sébastien, ça va être quoi l'objectif, d'aller chercher la quatrième place pour recevoir en phase finale?
Oui, si on peut aller chercher la quatrième, bien sûr qu'on ne va plus s'en priver, mais d'abord, ça sera d'assurer la qualif. On sait qu'il nous faut quand même encore une, voire deux victoires sur trois matchs. Voilà, mais après, c'est sûr que si on peut recevoir le barrage, voilà, comme j'ai dit, on va pas s'en priver. Nous, maintenant, c'est nos phases finales à nous, hein, comme j'ai dit il y a 15 jours. Voilà, match par match, mais si on peut finir quatrième, bien sûr qu'on va le prendre volontiers.
On t'a eu tout au long de l'année, mais... ça ne cesse de progresser. T'es surpris par ton équipe ou bien tu pensais que ça allait le faire?
Non, ben surpris, bien sûr. Quand on a un promu, c'est toujours compliqué. Donc, on a eu un passage à vide. J'avais dit que décembre, janvier serait très important. On a eu un passage à vide en décembre. Et on a très très bien réagi en janvier. Voilà, on a gagné à Mouguer notamment. Et après, on a réussi à enchaîner des grosses performances, notamment contre Souston à la maison, la Souken à Saint-Paul. Voilà, le groupe nous surprend de semaine en semaine. Et il fait preuve, voilà, il commence à prendre un petit peu d'expérience aussi. Il fait preuve d'un gros état d'esprit. Et le boulot, voilà, depuis mi-juillet qu'on a repris, tout le monde est sérieux. Donc ben, après, le travail, comme on dit, ça paye. Donc voilà, c'est simplement mérité pour tous ces joueurs qui en baffent pas mal depuis mi-juillet.
Il a réussi à placer quand même qu'il avait gagné à Mouguer.
Oui, ça, 3 mois après. Je vais pas vous le dire, mais
ça se retourne.
Je l'ai compris.
Non, il y a des tournants de la saison. Ce match a été un tournant, mais il y en a beaucoup. Mais celui-là, c'est vrai que de gagner là-bas, voilà, il nous a fait du bien, notamment classement. Et puis surtout, quand on gagne un derby, bien sûr, après, la spirale était positive.
Et t'as l'ensemble de ton effectif?
On a pas mal de blessés, je t'avoue que là ça commence à tirer un petit peu la langue. On a quelques blessés, on a eu des suspendus aussi. Donc on en récupère deux, mais on en perd trois par week-end. Donc bon, on essaye, mais preuve que le groupe est assez conséquent et les garçons qui remplacent les blessés font aussi bien, voire mieux. Donc tant mieux, l'effectif est assez complet, donc on ne va pas s'en plaindre.
Dimanche, c'est Hendaye qui est dernier, mais qui depuis janvier étonne avec des résultats assez exceptionnels. Justement, ça va être ça le mot d'ordre, pas de relâche, même si vous accueillez le dernier après vos excellentes prestations ces dernières semaines.
Et oui, c'est pas de relâche, voilà. On sait que c'est pareil, quand on est favori, c'est là où on passe au travers. Donc Hendaye, sur la phase retour, a gagné 6 matchs sur 8 comme nous. Donc allez, on gagne très juste et on gagne la dernière minute, donc on sait que ça va pas être simple. Eux, en première partie de saison, ça tournait pas dans le bon sens. Ils étaient pas loin, là, depuis la phase retour, là, ils sont en pleine confiance. Ils ont plus rien à perdre, donc s'ils peuvent aller, ils peuvent encore se maintenir. Ils sont qu'à 6 points de cette équipe du Boucau. Donc on sait très bien que ça va être le match piège par excellence. Ils arrivent en pleine confiance. Nous aussi, on est en confiance. Donc se méfier, on sait très bien qu'Hendaye a un gros pack. Ils jouent beaucoup sur ça. Donc à se méfier, on passe pas à 35 points à Varignes comme ça, quoi. Donc c'est qu'ils ont des qualités et ça les joueurs en sont conscients aussi.
Elle vous surprend, Yann et Mickaël, cette équipe d'Hendaye justement, là, qui est sur 3 victoires consécutives, qui a battu, si je regarde le résultat, Navarinx 35-31 le week-end dernier. On a eu cette victoire également 13-12 face à Saint-Paul-les-Dax à la maison et celle chez la Lanterne Rouge, justement match important pour eux face à Orthez 13-9. Hendaye, là, c'est se réveiller en cette fin de saison.
Oui, depuis janvier, il y a eu un changement de coach, de présidence aussi, si je ne m'abuse, et depuis, c'est un parcours de qualifiable, puisque Seb le disait, c'est 6 victoires en 8 matchs, donc comme eux, quoi, en gros, donc c'est un parcours d'équipe qui aurait pu se mêler à la lutte. À mon avis, partent un peu de loin là quand même parce que ils ont plus du tout le droit à l'erreur. Il y a ce match à Asparin ce dimanche où Asparin est ultra favori et puis voilà, même si tu peux avoir un peu de relâche quand tu joues le dernier, le fait qu'ils aient gagné 6 matchs sur les 8 derniers, ça veut dire qu'Asparin va les prendre très au sérieux.
Et tu laisses des plumes aussi quelque part à remonter comme ça.
Ouais, c'est ça, tu laisses des plumes et puis il doit avoir aussi quelques blessés de temps en temps, ça doit tirer sur la corde et du coup quand tu pars de loin comme ça, c'est vrai que c'est compliqué, mais l'aventure est belle. Et tu pourras, Hendaye pourra construire au moins là-dessus, ce qui n'a pas été le cas sur les 3 dernières années où ils ont eu énormément de mal, ils auraient dû descendre, ils se sont maintenus à chaque fois administrativement, mais au moins, voilà, redonner le sourire à ces joueurs-là et l'envie de continuer parce que là, ils ont vécu des saisons d'enfer, quoi.
Ils auront des bases pour l'année prochaine pour pouvoir garder les joueurs actuels et recruter pour repartir de plus belle.
Et ouais. Puis au moins, même s'ils ont la chance de se remaintenir administrativement, puisqu'on ne sait pas comment ça va se passer, les joueurs au moins savent qu'ils ont le niveau, quoi, parce que ce qui n'était pas le cas forcément les dernières années quand ils repartaient après avoir perdu pratiquement toute la saison.
Ouais, ça fait mon mal au casque, quoi, quand tu.
Et du coup, Seb, après le match, tu restes à Chapy ou tu viens voir ton frère du côté d'Anoeton?
Non, je reste au stade, oui. Je reste là-bas avec tout le monde.
Une petite télé.
Deux matchs à domicile.
Petite télé, ouais, petite télé.
Petite télé au clubhouse.
Au clubhouse, ouais.
Voilà, on va se mettre tranquillement sur le bas, sur la maison, et tranquillement, on aura ce derby à la télé, oui.
Et le président, il sera à Asparin ou il sera à l'État?
Il sera en Espagne, il me semble.
Bon, merci beaucoup, en tout cas.
Merci beaucoup.
Sébastien Brouette, entraîneur d'Asparin, vous faites bon match pour ce week-end?
Oui, ça marche.
Et puis, vous revenez nous voir, bien sûr, on se tiendra au courant de la suite des événements pour Asparin et comme l'ensemble des clubs de la Fédérale 2 et de cette poule 6. Et d'ailleurs, messieurs, Mickaël Guérindien et Yann Blanchard, on va se pencher un petit peu sur les résultats de cette Fédérale 2 et de cette poule 6 dans un instant sur France Bleu Pays Basque. D'ailleurs, je vous rappelle, restez bien avec nous parce que dans quelques minutes, vous allez gagner vos places pour aller du côté d'Anoeta ce dimanche soir pour aller encourager les Ciels et Blancs qui reçoivent le RCT. Donc, ça sera dimanche soir un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque avec Stéphane Garcia.
100% rugby sur France Bleu Pays Basque.
Et le mercredi, c'est une spéciale rugby amateur et nous sommes sur la Fédérale 2, sur cette poule 6, puisque nous étions avec Sébastien Rouette il y a un instant, l'entraîneur d'Asparin qui reçoit donc Hendaye ce week-end pour ce derby. Nous sommes avec Yann Blanchard, notre consultant de France Bleu Pays Basque. Mickaël Guérindien est avec nous également. On va se pencher un petit peu sur les différents résultats justement de cette poule 6 sur le dernier match, la 19e journée d'ailleurs de cette Fédéral 2. Alors, on a parlé un petit peu d'Hendaye, on a parlé d'Asparin, mais il y a également Mouguer et Boucau Tarnos. Mouguer qui a souffert à Souston, 33-6, Yann.
Ouais, ils avaient réussi à les faire tomber au match aller et assez avec un score assez lourd puisqu'ils avaient eu le bonus offensif, il me semble, au match aller contre Souston ou Guerre. Et donc voilà, Souston qui est une voire la grosse équipe de cette poule. Je pense avait ce match aller dans la tête et du coup c'est un peu vengé. Après Montguerre sur cette fin de saison a pas grand chose à jouer. Il faudrait assez un miracle pour jouer la qualif. Donc voilà une équipe faite avec des jeunes du cru du club formés au club. Une B qui tourne par contre très très bien puisqu'elle est première de sa poule. Elle est même devant Souston si je ne dis pas de bêtises.
Comme depuis un moment.
Ouais. Ouais et qui voilà c'est la bonne santé de ce club là. Et après, il reste à savoir si tu as envie un jour de franchir une marche. Mais pour le moment, ce club tourne avec ces jeunes formés au club et ça doit être une fierté pour le club.
Ouais, comme tu dis, pas grand-chose à jouer. Ils sont 9e actuellement, 43 points. Mais du coup, ils ont quand même... mes calculs sont pas très bons, mais je dirais environ 12 points d'Andaï qui est 11e. Pas...
Non, c'est fini. Non, le maintien, c'est bon. Mais,
voilà.
Oui. Et le tournant de la saison, on branchissait tout à l'heure. C'est sans doute, oui, cette défaite contre Asparin à domicile. Et donc c'est ça qui les éloigne de la phase de se qualifier pour la phase finale.
Il y a de quoi jouer quand même, un peu plus libéré peut-être justement aussi parce que quand on voit que ce week-end prochain, bah c'est Ponlon qui va se présenter à Mauguerre sur le, bah c'est le leader incontestable hein, de cette poule d'ailleurs, Mickaël.
Comme disait Yann, ils vont recevoir Ponlon, la baie cartonne, donc objectif je pense d'aller le maximum comme ils ont pour essayer de viser le titre. Et l'avenir, voilà, club formateur avec quelques belles années à venir. Fédéral 2, ça cogne avec des jeunes, c'est beau ce que Mauguerre met en place depuis quelques années, oui.
Et puis on a beaucoup Tarnos également dans la même poule, qui est dans une période un petit peu plus compliquée, peut-être avec deux défaites la consécutive et un match nul.
Ouais, attention quand même parce que ça revient derrière. Suivant le résultat d'Aspar et Andaï, ils peuvent avoir vraiment très très chaud aux fesses. Ils sont passés pas loin encore ce week-end de l'emporter. Ils perdent d'un point ou de deux points, je crois. Et ça a été un peu ça, un peu toute la saison, quoi. Ils passent pas loin, mais ça passe. La pièce elle tombe toujours du mauvais côté pour eux cette saison. C'est une saison de transition. On en avait discuté avec Sébastien Lopez. Voilà, il y a eu des arrêts, il y a eu des départs. Donc ça se reconstruit, mais il faut que ça se reconstruise avec un maintien pour ce club historique français.
Après, Bogota Arnos qui a perdu 37 à 28, effectivement. Mickaël.
Et pour revenir sur Montguerre, qui n'hésite pas à recruter au niveau de leurs bénévoles dans le club d'Asparin, puisqu'il y a des anciens d'Asparin qui, comme Darichon, qui osent aller à Montguerre en tant que bénévole à Montguerre. Voilà, petite dédicace.
Ça c'est fait, c'est envoyé.
Oui. Bon après, Raph Darichon était déjà bénévole à Asparin avant quand il jouait, donc il a juste construit deux piscines grâce au club, mais voilà. Mais sinon voilà.
Mais apparemment, il ne craquerait pas de pognon à Montguerre.
Bon, sinon côté rugby,
ça fait partie du rugby.
Ça fait partie du rugby et Bouco Tarnos qui va affronter justement, qui va se déplacer du côté de Navarinx, sixième actuellement du tableau. Bouco Tarnos qui effectivement a du souci à se faire, il va falloir cravacher parce qu'il n'y a que 6 points d'écart entre les deux. Navarinx qui n'a plus grand chose à jouer finalement.
Une équipe joueuse.
Ouais, lâchera pas quoi qu'il arrive, non. Même en fin de saison, même s'il n'y a pas grand chose à jouer, c'est joueur, c'est accrocheur.
Une équipe joueuse, et pour revenir sur le Bouco aussi, une équipe jeune. Voilà, ça serait vraiment beau que le club reste à ce niveau avec Mauguerre. Ouais.
Mickaël Guérindien avec nous ce soir dans 100% rugby sur France Bleu Pays Basque accompagné de Yann Blanchard, un 100% rugby spécial, rugby amateur bien évidemment. On va recevoir dans un instant Nicolas Acebès, joueur de Saint-Jean-de-Luz en National 2 et puis on va jouer ensemble pour gagner vos places, vos deux places pour aller à Naweta, aller encourager les ciels et blancs ce dimanche soir face au Racing Club Toulonnais.
100% rugby sur France Bleu Pays Basque.
Et aujourd'hui, c'est mercredi, on fait le tour des divisions amateurs du rugby ici dans le Pays Basque. Après la Fédérale 2, on va passer à la Fédérale 1. Et cette poule 4 avec Mickaël Guérindien et avec Yann Blanchard, nos consultants du jour avec deux clubs qu'on suit de près ici sur France Bleu Pays Basque, à savoir Mauléon et Nafarroa. Mauléon qui a écrasé Floirac d'ailleurs le week-end dernier. 47 à 8, belle perf de Mauléon, Yann.
Ouais, énorme perf qui leur permet de se rapprocher des dernières places qualificatives, de la sixième. Bon, voilà, on est habitué avec ces clubs-là. C'est vrai que les résultats étaient un peu en dents de scie, mais on les sent partis pour finir en boulet de canon cette saison. Et pourquoi pas avoir les deux clubs qualifiés d'ailleurs en fin de saison.
C'est vrai que Floirac, du coup, n'a plus que deux points d'avance hein, sur Mauléon. Mauléon 7e, Floirac 6e. C'est un score presque surprenant, ce 47-8, hein, Mickaël ?
50 points, c'est énorme. C'est pas anodin à ce niveau-là, ouais. Score surprenant, ouais.
Je crois qu'il y a pratiquement 7 essais à 1 qui ont été marqués. Mauléon, qui, je regarde le classement, 54, qui a 4 points finalement hein, de Thierros 4e et 5 de Saint-Médard-en-Jalles qui a 59 points. Ils peuvent encore croire s'approcher un petit peu du haut de tableau.
Je t'ai pas écouté de commencement, Mickaël.
D'accord, oui, ils ont
encore... Il est occupé, il joue à Candy Crush.
Non, il est en train de faire une vidéo sur la prochaine recrue. De Darit Chouamouguer. Donc, oui, ils croient à la qualif. Chaque année, ils nous surprennent. Et pour moi, ils vont aller la chercher, oui.
Surtout que, du coup, Mauléon, le prochain match, si je regarde ce week-end, qui va recevoir donc Rion-Morsang, c'est la lanterne rouge, hein, qui ouais. est pratiquement pareil... qui est lanterne rouge et qui a déjà 6 points de retard sur le 11e, et donc c'est quasiment cuit, les carottes sont cuites déjà pour Rion.
Et Rion qui a surpris, malgré deux cartons, ils ont pris deux cartons jaunes contre Nafarroa et a réussi à marquer deux essais sur le dernier quart d'heure contre Nafarroa et qui surprend d'un point, qui gagne d'un point chez eux contre Nafarroa. Ouais.
Non, je suis impressionné parce que Mickaël, j'ai l'impression que cette semaine, il a bossé. Je pense que les émissions de ces dernières semaines, il a compris qu'il n'était pas au niveau et il s'est remis en question. Et c'est là qu'on voit.
Donc c'est pour ça que tu peux jouer sur ton téléphone.
C'est là qu'on voit, on va arrêter de balancer. C'est là qu'on voit, voilà, que c'est un vrai champion, un international arménien, on le sait tous, mais voilà, il sait se remettre en question et bravo à toi, Mickaël.
Voilà, le bénévolat.
Bravo à toi, Mickaël.
Bon, du coup, t'as une chose à dire ou pas sur Mauléon, toi?
Non, j'ai déjà dit ce que j'avais
d'accord,
à dire sur Mauléon.
T'as rien d'autre à okay,
ouais, non, c'est pas mal. J'ai dit qu'ils vont aller chercher la.
Ils vont aller chercher la qualif.
Ouais,
voilà, ouais, c'est très bien.
Et ils reçoivent Rion qui, après cette victoire qu'on a précisée juste auparavant, arrivera à Mauléon, je pense. Ça va être compliqué pour eux.
Bon, Nafarroa, en tout cas, deux points derrière Mauléon. 56 points pour Mauléon, 54 pour Nafarroa. Nafarroa qui a perdu justement à Rion-Morsang, 22-21. C'est une belle perf, mine de rien, d'aller perdre... Ah non, mais non, c'est le lanterne rouge, pardon. Rion-Morsang, 22-21, c'est dommage plutôt, c'est l'inverse.
C'est là. Alors, je regarde peut-être mon téléphone de temps en temps dans cette émission, mais je n'aurais pas sorti le couleur. Non,
Nafarroa, oui, je pense qu'ils ont loupé le coche.
Ouais.
Ils ont loupé le coche. On avait dit dernièrement que Rion-Morsang, malgré leurs nombreuses défaites, pourrait être compliqué sur un ou deux matchs. Mais là, c'est tombé sur Nafarroa, quoi.
Ouais, ils sont peut-être un petit peu relâchés ouais, sur ce match. Ils sont vus
c'est
trop beaux.
C'est pas le style, c'est pas le style, mais je rejoins Miguel. Voilà, il y a
Los Galacticos.
Rion, même s'ils sont derniers, ils perdent pas de beaucoup à chaque fois. Et voilà, ils sont tombés malheureusement sur Nafarroa. Mais j'y crois pas du tout. C'est pas du genre à prendre de haut ou quoi que ce soit du côté de Nafarroa. Donc voilà, c'est une contre-perf. J'espère juste que ça entachera pas cette belle saison de Nafarroa une nouvelle fois.
Parce que quelque part, donc, ils ont joué donc, à Rion-Morsang la semaine dernière. Ils vont à Tulle, qui est à l'avant-dernier le week-end prochain. Sur le papier, en fait, il y avait possiblement au moins 8 points, là, peut-être sur le papier. Quoi.
C'est exactement ça. Je pense que ça devait être le tableau de chasse. Mais voilà, c'est la différence entre espérer prendre des points et les prendre réellement. Rien n'est facile. C'est un niveau qui tape énormément. Et voilà, Nafarroa va rebondir. On les connaît.
Bon, et ben voilà ce qu'on veut dire en tout cas sur cette Fédérale 1 et cette poule 4 avec Nafarroa qui se déplacera donc à Tulle ce dimanche à 15h15. Les infos du jour, quelles sont-elles?
C'est toi qui as travaillé.
Bah oui, j'essaye un petit peu de temps en temps avec le Stade Anas Vallon de Toulouse qui a été choisi pour pouvoir accueillir les quatre prochaines finales de Pro D2. Anas Vallon, le stade du Stade Toulousain et les finales de la deuxième division qui se joueront là-bas jusqu'en 2027. C'est un bon choix.
J'ai rien compris pourquoi on l'attribuait sur plusieurs années.
Oui, ça m'a surpris
dans
aussi,
un stade comme celui-ci. On aurait même l'inverse, c'est-à-dire que on décide du stade beaucoup beaucoup plus tard dans la saison parce qu'on se souvient des hérésies Brésil où les supporters sont obligés, les deux clubs sont obligés de faire 700 bornes pour aller jouer. Alors ils considèrent que Toulouse est au milieu à peu près de tous les clubs. Voilà, on se souvient d'une finale Bayonne-Brive notamment à Pau où le stade était trop petit. Toulouse c'est pareil, il fait à peine 20 000. Imaginons deux gros bastions un jour de Pro D2 qui se rencontrent en finale. Ben, le stade sera une nouvelle fois trop petit. Enfin, voilà,
on pourrait attendre chaque année un peu plus,
longtemps, même si c'est dur à organiser au dernier moment. Mais voilà, la Ligue fait le choix de se targuer, notamment on l'a vu en top 14, de vendre toutes ses places trois mois avant l'événement. C'est bien, mais quel est l'intérêt? Parce que du coup, ça fait des finales sans ambiance.
C'est vrai que quand tu prends en Vannes ou Grenoble, enfin de Toulouse, c'est pas la porte à côté non plus. Hein. Choix surprenant, Mickaël?
Très surprenant. Très surprenant, on en a parlé il y a quelques émissions de ça et je vois qu'ils nous ont pas écouté.
On leur enverra l'enregistrement, c'est promis. Iban Yerrier Urruti, le talonneur basque qui prolonge son aventure lui du côté de Dax. Il a signé un contrat qui court jusqu'en 2026. Iban est arrivé à Dax l'été dernier en provenance de Saint-Jean-de-Luz en tant que joker médical, mais finalement l'aventure se passe plutôt pas mal pour lui, Yann.
C'est topissime. Je suis... Vous savez à quel point j'aime avoir raison et j'aime dire les choses avant les autres. On avait fait une émission à Saint-Jean il y a 2 ans, juste quelques mois avant qu'il parte. Voilà, du côté de Dax, et j'avais toujours dit que je comprenais pas que à une époque et Bayonne et Biarritz en troisième talonneur plutôt que d'avoir un géorgien ou quelqu'un d'une autre nationalité qui était souvent pas bon ne se soit pas retourné vers lui, que je trouvais très très bon à chaque fois que je le voyais jouer à Saint-Jean, formé à Biarritz en plus, donc bon, il est pas formé nulle part, donc voilà, je comprenais pas. Et puis voilà, c'est Dax qui a sauté sur l'occasion très tard, certes à 30 ans. Je savais pas trop ce qu'il allait en être puisqu'il était un joker médical à la base. Il signe pour 2 ans supplémentaires.
26, ouais.
Et félicitations à lui parce qu'il a été se le chercher.
Chouette joueur, chouette gars.
Et bravo à Dax parce qu'on voit la saison de Dax en plus cette saison. Ouais. Et voilà, ils ont raison de faire des paris comme celui-ci. Ça sert à rien des fois d'aller chercher à l'autre bout du monde, surtout
pour être un Georgien, par
deuxième ou troisième au poste. Voilà, on peut faire confiance. On est une terre de rugby et on a des joueurs de cette qualité-là.
Genre de talent, hein, Mickaël.
Ouais. Bravo, Laurent, tu crois. Ouais.
Petit coup de tonnerre aussi.
Merci
chez nos...
cette analyse, Mickaël.
Petit coup de tonnerre.
On en a parlé en off.
Chez nos voisins Montois, oui, mais le off, c'est pas intéressant pour les auditeurs.
Mais il a tout dit.
Petit coup de tonnerre, en tout cas chez nos voisins Montois, puisque l'entraîneur des Avants de Mont-de-Marsan, hein, Julien Tasté, va quitter Boniface à la fin de la saison. C'est une première séparation pour lui, puisqu'il a passé 27 saisons en jaune et noir. D'abord en tant que joueur, il a d'ailleurs le record d'apparition avec le club, avec 336 matchs à son actif. Puis en tant qu'entraîneur des Avants, Julien Tasté, c'était un petit peu l'homme d'un seul club, et il va partir du côté du Stade Français la saison prochaine en tant qu'entraîneur de la Touche. C'est vrai que c'est un petit clap de fin quelque part pour le Stade Montois. C'est une grosse histoire avec le club qui s'arrête là.
C'est l'enfant du club, c'est le joueur emblématique. Déjà l'an dernier, il avait eu du mal à terminer. J'avais vu un ou deux articles sur lui. Bon là, comment refuser un club de top 14?
C'est, je pense, un super coach. Il a fait du très très bon boulot à Mont-de-Marsan. Après, il l'a connu en tant que joueur, ce club. Ça doit quand même être fatigant chaque année, tu sais, de perdre tes meilleurs joueurs, de repartir, d'essayer de refaire une belle saison. Ils en font encore une belle cette année. Mais est-ce que ça va pouvoir durer dans le temps avec une Pro D2 où il y a de plus en plus de clubs armés? Je ne sais pas. Et oui, le Stade Français, ça se refuse pas. Et peut-être que ce qu'il a pas osé faire en tant que joueur, ben là, il ose le faire en tant que coach. Et on lui souhaite, voilà, le meilleur. Oui, je dis du bien de l'ancien entraîneur Montois.
Tout le bonheur du monde.
Tout le bonheur du monde.
Tout le bonheur du monde.
Et que quelqu'un lui tende la main, surtout. Le docteur Ville lui a tendu la main. Et malheureusement, sa main, elle est restée dans la main de Julien Tasté.
Et Yann Blanchard avec nous ce soir. Mickaël Garindien, également nos consultants de 100% rugby en ce mercredi, une spéciale sport amateur, bien évidemment. Et dans un instant, nous allons accueillir Nicolas Acébès de Saint-Jean-de-Luz qui évolue en National 2.
100% rugby, les infos du jour.
Et on va jouer pour gagner vos 2 places pour Anoeta. Vous nous appelez au 05 59 59 17 17. Vous allez jouer avec Mickaël Garindien ou avec Yann Blanchard. C'est à vous de choisir quel joueur vous allez utiliser pour tenter de repartir avec ces 2 places pour aller encourager les ciels et blancs du côté d'Anoeta ce dimanche soir. Bonne chance. Allez, c'est l'heure de jouer avec Yann Blanchard, avec Mickaël Garindien et avec nos auditeurs également. Pancho Arandaï, bonjour. Il est là.
Il a perdu forfait.
Eh ben oui, c'est ça. Perdu dans les tuyaux. Qu'est-ce que vous voulez? Comment ça va, Pancho?
Bien.
Très bien. Bon, c'est arrivé le premier, donc c'est vous qui allez choisir votre joueur préféré. Voilà votre binôme.
Je vais jouer avec Yann, ouais.
Comme par hasard.
Avec Yann Blanchard, Pancho a donc choisi la team Yann Blanchard. On va accueillir Gérard à Urugne. Bonsoir, Gérard.
Bonsoir, monsieur.
Appelez-moi Julien, c'est plus simple.
Mickaël, on a une revanche à prendre. J'avais perdu avec toi il y a 4 mois contre Yann déjà.
J'avais perdu, c'est bizarre.
Et du coup, Gérard veut changer les règles, il veut être avec moi lui aussi.
Pour une fois que j'avais perdu.
Calme-toi, Miguel.
Bon, Pancho, en tout cas, qui va jouer avec Anne Blanchard. Gérard avec Mickaël Guérindien. Tout cela pour gagner quoi? Eh bien, 2 places pour aller à Noëtta dimanche soir. Aller supporter les ciels et blancs face à Toulon. La première question, est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Pancho et Gérard?
Attends, allez. On laisse finir, hein?
Allez.
C'est ça. On laisse finir la question.
Ah, moi, je sais pas, j'ai pas de règles.
Non, voilà. Attends. Ouais. C'est bon, la règle est là, on a le droit de répondre avant qu'il ait fini.
Ouais, allez, ben, ça va la feuille sinon?
Je la cache un peu, ça, c'est pas ça, la feuille des questions.
Non,
là, en
dessous. Sans déconner.
Allez, en dessous. Pancho et Gérard, juste avant de répondre, criez votre prénom tous les deux, parce que comme je ne vous vois pas forcément, et je ne reconnais pas vos voix non plus, parce que.
Miguel va répondre avant de parler avant eux, de toute façon.
Donc n'hésitez pas à crier vos prénoms avant de répondre à la question.
C'est la dernière fois que je viens bénévolement.
Parce qu'on est prêt pour la première question, monsieur.
Bye.
On évite de se jeter des choses à la figure. Au match aller face à Toulon, lors de la deuxième journée de Top 14, Toulon a battu Bayonne 19-14.
Oui.
Le RCT a marqué un essai.
Oui.
Qui a marqué cet essai?
Rien.
Bon, mais voilà.
Non, attends. J'ai même attendu la fin de la question, si tu veux tout savoir. Tu veux dire quoi là? Tu veux dire quoi, Mickaël? J'y étais en plus.
Bon.
Allez, pas de choix, il n'y a plus qu'un point à la mettre.
Un point.
Allez,
non, mais attends.
Allez, attention, vous allez me donner.
Je pense que Gérard, la prochaine fois qu'on lui dit qu'il joue avec Mickaël, il raccroche. Bon.
Alors là, attention, règle un peu spéciale. Je veux pas, voilà, parce que je connais Yann, il va me balancer 45 milliards de choses à la fois. Je veux une réponse chacun. Vous allez me donner une réponse chacun. Je ne veux pas de succession de réponses. Hein,
c'est
on est bien d'accord.
D'accord,
hein?
C'est lui qui commence.
Et c'est Gérard qui va commencer.
Allez.
Ok.
Le Basque, Mathieu Acébès, le frère de Nicolas Acébès, que nous allons recevoir dans un instant, joue à l'USAP depuis quelques saisons maintenant. Il a annoncé qu'il quitterait Aimé Giral à la fin de la saison. Mais en quelle année est-il arrivé à Perpignan, Gérard?
J'ai combien de temps pour répondre?
Bah là, vite.
Ouais. 10 petites minutes, tranquille.
2016.
Ouais. Alors, je peux te dire que Mickaël, tu lui demandes même pas une réponse. Il vient de lâcher son téléphone.
Non.
Mais de toute façon, Gérard a la bonne réponse.
C'est bien
2016.
Non. Donc Gérard peut répondre. Yes. Et nous, on peut pas répondre. Non, tu l'as dit.
Bah, il a la bonne
Gérard.
Réponse.
Mais bien sûr.
Mais nous, avec pas le choix, on dit 2016. Comment tu
faisais le premier? Non. Je l'avais pas.
Mais non.
Bravo, Gérard. Un partout.
Voilà, c'est un partout, c'est sport.
Voilà, je l'avais pas. J'aurais
mis 14. Pas de choix, j'ai l'impression que c'est
l'hiver.
C'est Frédéric qui nous a mis.
J'aurais mis 2014. Mais bravo, Gérard.
Voilà, et Mathieu Acébès qui a joué pour l'instant 162 matchs en sang et or et marqué 191 points avec les Catalans. La troisième question.
Yann, ça bosse.
Allez, troisième question. Attention, un partout pour l'instant. Quel All Black aux 7 sélections vient de prolonger son contrat avec
White Lock?
Oui.
Non, mais bon.
Adam.
Voilà. Eh ben oui, et si Yann Blanchard révise.
Et pas toi, c'est dans la poche.
Je vais finir la question.
Non, il n'y avait pas la règle.
Il n'y a pas la règle.
GG.
Prolongé son contrat. GG. Il a prolongé son contrat avec la section paloise, effectivement. GG. Luc Whitelock, le capitaine de la section, qui a prolongé son contrat de 2 ans jusqu'en 2026.
On va donner un conseil à Gérard. La prochaine fois que tu joues, Gérard, si à l'accueil on te dit vous êtes arrivé en deuxième, t'es avec Mickaël Grandia, raccroche, ne perds pas ton temps. Ça ne sert à rien, c'est perdu de toute façon, GG. Donc.
Mickaël, je joue avec toi.
Mais bien sûr, bien sûr.
Parce que t'aimes pas la vivante, t'es pour le BO. Tu veux pas le voir, le match.
Gérard, désolé.
Il fallait trouver une petite place dimanche pour aller les envoyer.
Il reste quelques places encore.
En train pour de
l'aller au Gérard, en tout cas, très bientôt à Urugne.
Bon, merci beaucoup.
Pancho,
adieu.
Pancho, bravo.
Oui.
Bah, bravo, Pancho.
Bravo à Yann.
C'est bon.
Bon.
C'était facile, pas non, mais... c'était face à Mickaël, c'est rien.
Le tout, c'est de savoir sélectionner son joueur.
C'était
hein,
la première réponse, c'était ça.
Quel All Black a entendu toi, tu...
cette sélection, je suis capable de tout citer tous les All Blacks qui ont eu cette sélection.
Qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est fort. Panchoa, bravo. Et puis bah, bon match merci, du coup dimanche soir. Et puis envoyez-nous quelques photos, peut-être d'Anoeta justement quand vous serez d'accord au stade dimanche soir sur la page Facebook de France Bleu Pays Basque, parce que nous on sera là
à
la radio pour commenter ce match en direct et en intégralité avec Stéphane Garcia. À très bientôt, Panchoa.
Super, super, merci beaucoup.
Allez,
plaisir.
Adio.
Un plaisir, Panchoa.
Et dans un instant, on va accueillir justement le frère de Mathieu Acébès, Nicolas Acébès, avec nous dans un instant.
Toute l'actu du rugby au Pays Basque est dans 100% rugby sur France Bleu.
Avec Yann Blanchard, avec Mickaël Guérindien, avec nous ce soir dans ce 100% rugby spécial, rugby amateur. On va se pencher aujourd'hui, eh bien là maintenant, sur Saint-Jean-de-Luz, qui évolue en National 2. Nicolas Acébès nous fait le plaisir d'être avec nous.
C'est pas une blague, on a vraiment Nicolas Acébès.
Mais bien sûr.
Bon, je me casse moi.
Allez, bonsoir Nicolas.
Bonsoir les amis, bonsoir Yann.
Il y a un léger décalage visiblement avec Nicolas Acébès. Il est très loin, très loin visiblement, mais bon, on va se débrouiller. En tout cas, Saint-Jean-de-Luz, bon dernier du championnat, mais qui a réussi à s'offrir tout de même le scalp du quatrième Langon le week-end dernier. J'imagine qu'elle fait plaisir tout de même celle-là.
Ben oui, elle fait du bien parce que si on perd là, ben, du coup, elle fait du bien dans les têtes, elle fait du bien pour tout le monde, pour les joueurs, pour les supporters, et ça nous donne un peu d'espoir, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Langon qui venait avec des intentions, j'imagine forcément qu'on est quatrième du championnat, on se déplaçait chez la Lanterne Rouge avec l'envie de marquer des points.
Ben, bien sûr, ben, Langon et les autres, quand ils vont chez le dernier, ben, ils ont envie de faire comme les autres, d'essayer de les gagner, de pouvoir les enterrer un peu plus qu'ils le sont. Donc voilà, on a su répondre, je pense, présent en conquête et aussi dans le jeu. Donc voilà, avec du caractère, et ça fait plaisir.
Et ça, c'est le caractère surtout qui a permis d'aller chercher ce match.
Ben oui, à la 70e, je crois qu'il y a 16-13, donc ça s'est joué à la fin avec, voilà, je le redis, du caractère, parce que c'est peut-être ce qui a manqué des fois durant la saison, et là ça fait du bien de voir que tout le monde est allé dans le même sens, et voilà, avec les tripes, et voilà, on a pu voilà, gagner ce match là, en fin de partie.
Ah, visiblement, on a besoin de tailler quelques arbres chez vous.
Ouais, ben, Starit, il y a des bûcherons.
Et non, mais il a un château, donc il faut entretenir la propriété. Même s'il est bénévole du côté de Saint-Jean-de-Luz, voilà, il a réussi à s'acheter un petit château comme son frère avec Mathieu Rinal. Quoi. Voilà.
C'est Thomas Cancio qui lui fait le bois.
Bon, en tout cas, il reste deux matchs. Nicolas, vous avez un point de retard sur Limoges, le 11e, 7 sur Marmande qui est 10e. L'objectif, là, c'est quoi sur les deux derniers matchs?
Ben, l'objectif, c'est d'aller gagner à Niort, parce que si on gagne à Niort, on se donne un ticket d'or pour jouer le maintien contre Anglette, donc à la maison. Donc voilà, je pense que dans cette poule cette année, il faut surtout pas finir dernier. Donc si on veut pas finir dernier, il faut gagner à Niort et jouer un potentiel maintien contre nos voisins Angloy.
En tout cas, c'est il y a. Oui, c'est. Faut y aller quand même, annoncer une victoire à Niort. Niort qui est troisième quand même, je le rappelle. On y va avec des grosses intentions du coup à Niort.
Personne ne joue pour perdre, donc.
Non, bien sûr, mais c'est vrai que Niort, quand on regarde un petit peu Niort, c'est vrai que c'est solide, c'est costaud quoi.
Ouais, c'est une équipe hyper costaud, très dense, très athlétique. Ils sont devant, ils sont tous très grands, très costauds. Chez eux, ils sont plutôt solides, avec un stade qui est souvent plein, avec du monde. Mais voilà, Niort, sur les deux ou trois dernières années, on a fait des victoires ou des matchs nuls. Donc j'espère que psychologiquement, ils ont plutôt peur de nous jouer, en tout cas sur l'aspect rugbystique. Sur l'aspect physique, je pense qu'ils ne me craignent pas trop, et c'est, je peux le comprendre. Mais voilà, on y va pour gagner. On a rien à perdre à part faire descendre un club, donc il va falloir se vider. Il reste deux matchs, c'est 160 minutes à 200%.
Vous avez eu pas mal de blessés cette année, vous êtes plusieurs à être venus. Comment tu te sens toi personnellement?
Ben oui, les blessés, c'est un fait. Alors voilà, toute la saison, on a dit il y a des blessés, mais il faut faire avec et il faut pas se cacher derrière ça. Moi, je suis revenu il y a trois semaines. Je me sens à 150% pour aider le club. Et voilà, j'espère que ça sera victorieux au bout et qu'on pourra se sauter dans les bras.
Yann,
Non, mais se sauver avec, avec en plus le retour de Nicolas Sébès, c'est quand même un caillou dans la chaussure, ça serait magnifique pour Saint-Jean-de-Luz. Et, mais je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que Nico n'a pas entendu, mais bien sûr que les joueurs veulent se sauver sportivement, parce que t'as pas envie de te sauver juste parce que d'autres clubs ne voudront pas monter ou vont descendre. Mais oui, au moins aller chercher Limoges sur les deux dernières journées et pas finir dernier, pour moi, leur assurerait un maintien, au moins administrativement.
Limoges qui se déplacera d'ailleurs du côté d'Anglet hein, samedi soir.
Donc Anglet va faire le taf et puis après, vu qu'ils seront qualifiés, le manager Anto Biscay lâchera le derby contre Saint-Jean-de-Luz.
Voilà, comme ça on en parle.
Comme
plus.
Ça tout le monde est content.
Voilà, ça vous va comme scénario du coup
Ouais, Yann Blanchard finira à Madame Irma avec une belle boule de cristal.
Une seule.
Oui, une seule, ça suffit.
C'est bon, ça suffira. Bon,
je vois l'image.
Et ouais, bah, ou pas, moi non, pas forcément. Merci.
Et un mot. Non, on n'a pas le temps.
Si, vas-y.
Un mot. Ton frère dit que c'est peut-être pas la fin de sa carrière. Il parle d'étranger. Est-ce qu'il veut parler aussi d'amateur ou pas du tout?
Je suis repassé sous un pont comme tout à l'heure.
Voilà. Ok. Donc t'as la réponse, mais tu veux pas nous la donner. Alors que nous, on te fait croquer, on te fait commenter des matchs magnifiques. Et toi, tu fais plus croquer. Toi. Non, mais bravo, félicitations.
Non. Mais pour répondre d'amateur, je pense pas. Voilà.
Ouais.
Je pense pas.
Plutôt l'étranger, quoi.
J'aurais aimé qu'il vienne jouer une saison avec son frère, mais malheureusement, les conditions professionnelles le permettent pas, je pense.
Bon. Dommage, ça aurait pu être sympa. Ouais.
Une belle paire.
Ouais.
Oh, voilà, ça aurait été une belle paire de pénibles, oui, surtout sur le terrain. Ah ouais. Alors là, il y aurait eu un nombre d'arrêts d'arbitres en National 2 la saison prochaine. Alors là, ça aurait été incalculable.
Arbitré par Caballero.
Ah
bah voilà, allez, comme ça.
Quand il arbitrait Saint-Jean, c'est bon.
Oh, ça, on est pas mal, on a la totale.
On dirait avec les arbitres.
Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas Sébès.
Merci beaucoup, excusez-moi pour le petit pépère.
Il n'y a pas de souci, c'est des choses qui arrivent. C'est des aléas du direct, comme on dit, apparemment. À très bientôt en tout cas et bon match.
Bon match.
Parfait, au revoir.
Allez, adieu, bye bye Yann. On se dit à demain.
Bah oui, à demain, oui.
Bah oui, bah oui, à demain, c'est ouais. Bon, bah ça va aller, on va se retrouver.
Et
demain.
Bon, peut-être à mercredi prochain.
Et puis Mickaël Garindien, à mercredi prochain pour cette spéciale amateur 100% rugby. Revient en tout cas dès demain, 18h-19h.
100% rugby sur France Bleu Pays Basque.